Cette table ronde, on va parler de capitalisme évidemment, mais de capitalisme de modèle européen. Est-ce que c'est un le modèle européen, est-ce que c'est un défi pour le capitalisme Donc on va commencer peut-être aussi par l'actualité, parce que demain on va fêter quand même les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Ça interpelle, ça interroge, ça questionne autour de la responsabilité du capitalisme. Puis une époque 1989 où il y avait une certaine euphorie qui régnait en Europe, justement, autour du capitalisme, un gigantesque espoir. Et j'ai envie, Frédéric, de vous interroger sur ce sujet qui est plein d'émotions, me semble-t-il, et de se demander si 30 ans plus tard, comment est-ce que vous voyez ce modèle européen, ce modèle de capitalisme ?
Oui, d'abord, Caroline, permettez-moi quand même juste de vous dire que, évidemment, je suis très heureux et c'est au nom de mes équipes de recevoir ce prix et de vous remercier, de remercier le jury. Parce que finalement, c'est quand même une décision un peu courageuse, au fond, de sélectionner une banque, puisque souvent, les banques sont vues justement comme, à l'inverse, des entreprises non responsables. Mais ce que je voudrais juste dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes totalement engagés à tous les niveaux dans une démarche, et j'aime bien les termes que vous utilisez, d'abord cohérente, et on ne peut pas, quand on conduit aujourd'hui une banque, une dirige une banque, envisager de ne pas être cohérent dans l'ensemble des dimensions. Et deuxièmement, à moyen terme. Et une banque, c'est vraiment une entreprise qui doit raisonner à moyen terme. Le type de risque que nous prenons des risques à travers des prêts, à travers des solutions d'investissement, sont par nature des engagements de long terme. Il n'y a pas de court terme chez nous. Quand on fait un prêt immobilier à 20 ans, quand on finance un projet à 10 ans, quand on finance l'investissement d'une entreprise à 5 ans, tout ça, c'est du moyen terme. Et d'une certaine manière, tout l'enjeu, justement, pour nous aussi, c'est... dans ces phases de transformation profonde, c'est effectivement arriver à garder cette logique de long terme. Et je pense que c'est mon rôle. Et en tout cas, c'est vrai que de ce point de vue, je suis très heureux pour nos équipes de cette reconnaissance. Alors ensuite, oui, je vais vous dire, moi, j'ai vécu la crise financière et je vois aussi comment, justement, aujourd'hui, les différents continents réagissent vraiment. Et par rapport, y compris à des problématiques actuelles, moi, je dis que nous vivions en Europe une chose très différente d'ailleurs. Le climat n'est pas du tout aux États-Unis aujourd'hui, ou même, par exemple, en Asie, je reviens d'un pays en Asie, aujourd'hui, le même type de préoccupation qu'en Europe. Deuxièmement, je pense qu'il y a quand même vraiment, quand on regarde les évolutions depuis les 10 dernières années, une manière d'aborder le développement économique avec des équilibres sociaux qui n'ont rien à voir entre l'Europe et la Chine, et entre l'Europe et les États-Unis. Donc je crois qu'on partage de ce point de vue entre les pays européens quand même beaucoup d'éléments communs dans justement, effectivement, une approche probablement plus équilibrée entre profit à court terme, sur la manière dont les richesses sont distribuées, avec des mécanismes de redistribution par les États qui sont quand même d'une manière générale très développés, et donc une approche aussi plus holistique, y compris de ce qu'est l'entreprise dans la société. Et c'est vrai qu'on a peut-être, de ce point de vue, quand on pense aux risques qui pèsent sur le système européen, pas assez mis en avant ceci, et par opposition à ce que je peux voir, en tout cas, ailleurs.
Alors, si on devait poser des mots sur ces modèles de capitalisme, alors effectivement, on va dégager un peu l'Asie, les États-Unis, l'Europe. Quels sont les mots, même si c'est pas trop audacieux comme question, sans avoir peur des mots, quels seraient les mots que vous poseriez pour qualifier en fait ces différents modèles de capitalisme ?
Écoutez, encore une fois, sur l'Europe, d'abord, moi, je ne vois pas comment aujourd'hui on pourrait imaginer une entreprise qui n'intègre pas des dimensions bien différentes d'exclusivement le profit. Enfin, les attentes, que ce soit enfin, des parties prenantes, les clients, nos salariés, nos collaborateurs, aujourd'hui, attendent plus que juste un résultat financier à très court terme. Donc je pense qu'il y a une forme de culture en Europe qui est liée probablement à notre éducation, qui est liée finalement à une certaine projection de nos modèles de société, qui fait que naturellement, on ne peut pas se permettre juste de regarder un compte de résultats. Je pense quand même qu'aux États-Unis, quand on regarde concrètement les choses, aujourd'hui, la divergence dans la répartition des richesses est assez considérable. Alors, elle a été certainement, y compris, dopée par les 10 dernières années. Hein. Vous avez eu une croissance extraordinaire de la valeur d'actifs financiers qui sont quand même beaucoup plus concentrés dans les mains de quelques-uns. Et je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui tout de même la même prise de conscience d'enjeux, par exemple climatiques. Est-ce que c'est là aussi une question d'éducation? Est-ce que c'est là une question aussi de la projection de ce pays dans le monde? Quanto, par exemple, j'étais au Japon donc il y a une semaine. C'est vrai que je parle systématiquement de ces enjeux de ESG et de climat. Ça ne fait vraiment que débuter. Et en fait, c'est probablement parce qu'aussi, par exemple, au Japon, ils ont pris une décision d'arrêter le nucléaire à la suite de l'incident de Fukushima. Ils sont tous, évidemment, tributaires du charbon pour produire leur électricité, à hauteur de 30%. Et par ailleurs, en matière de renouvelables, ils ont un problème concret de surface disponible. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je crois quand même qu'il y a une vraie éducation. Alors, je ne sais pas si elle plonge des racines judéo-chrétiennes en Europe et une forme de développement de société, de nos États, avec une nouvelle fois des attentes de la société qui va au-delà, je le répète, et qui exige des formes de partage qui sont, à mon avis, un peu différentes, ou de la Chine. Aller en Chine, il se passe des choses qui sont radicalement différentes de ce qui se passe dans nos sociétés, ne serait-ce que par rapport à la notion de protection, par exemple, des données aujourd'hui dans notre secteur à nous, secteur financier. Bref, on trouve des différences fondamentales de modèles qui se traduisent aussi, je pense, quand même aujourd'hui par l'attitude des entreprises et l'attitude des investisseurs. Parce que je dois aussi vous dire qu'on reçoit beaucoup de messages, mais moi, quand je fais mes roadshows du trimestre, on a beau mettre en deuxième slide de présentation de nos résultats ce qu'on fait en matière de ESG, je n'ai jamais de questions sur cette slide. Jamais. Et ça retombe sur votre évolution de coût au trimestre, elle est de 0,5 au lieu de 1. Expliquez-moi pourquoi. Donc, il y a quand même encore une forme de nécessaire. Il va falloir trouver un peu plus de cohérence aussi entre les discours et la réalité des faits. Donc, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, en Europe, c'est vrai qu'on sent que les parties prenantes sont quand même toutes beaucoup plus, au fond, concernées et probablement partagent énormément sur ces sujets-là. Alors, ensuite, tout n'est pas facile. Il y aura sûrement des sujets de controverse, etc. Mais je crois qu'on devrait, en tout cas, il faut regarder ça comme une opportunité. Moi, je le regarde, en tout cas, comme une opportunité, sachant que c'est bien entendu difficile d'avoir une vision très différente parce que les mondes sont globaux, les compétitions sont globales. Et je répète, aujourd'hui, je considère que encore des gens raisonnent de manière assez différente ailleurs.
Arnaud, c'est vrai, c'est un constat qui a été partagé tout au long de la matinée. Les rencontres financières de Paris Europlace cette année étaient placées sous le signe de la responsabilité. Pour autant, on va en reparler, mais on a quand même le sentiment qu'il y a une vraie dynamique qui s'est mise en place du côté des marchés financiers. Mais on remarque encore, effectivement, que finalement, les investisseurs posent très peu de questions, interpellent très peu les dirigeants, encore, sur ces sujets d'intégration de la responsabilité, je ne parle pas de la RSE, de l'intégration de la responsabilité au sein des organes centraux, qui sont le business model et la gouvernance, sans parler évidemment de la performance. Comment est-ce que toi, à la tête de Paris Europlace, tu observes en fait ces évolutions à l'échelle mondiale?
Alors, d'abord, en prolongeant ce que vient de dire Frédéric Oudéa, parler une seconde de la manière dont la place financière de Paris considère ces sujets et au fond au sein de l'Europe a avancé sur ces sujets depuis, pas depuis la dernière pluie, même pas depuis la dernière pluie d'acide, mais depuis le début des années 2000. La démarche de l'engagement vers une économie durable au niveau de la place financière de Paris et j'allais dire au niveau européen, elle date déjà d'il y a une vingtaine d'années et elle s'est développée à travers une série de thèmes qui se sont superposés les uns au-dessus des autres. D'abord, l'investissement socialement responsable. Il faut savoir aujourd'hui, on parlait tout à l'heure, Sophie Javary parlait du rôle des investisseurs, il faut savoir aujourd'hui que le tiers de l'investissement, le tiers de la gestion d'actifs en France aujourd'hui est managé selon des principes d'investissement responsable. Ce n'est que le tiers. Mais c'est déjà le tiers. Et l'objectif est que d'ici, on a dit 3 à 5 ans, la quasi-totalité de la gestion d'actifs en France soit gérée selon ces principes. Comme Frédéric l'a indiqué, il est intéressant de constater que le pourcentage, le ratio est par contre seulement du quart au niveau mondial. Nous sommes au tiers en France et au quart au niveau mondial en matière de représentation de l'ISR ou l'investissement responsable aujourd'hui dans la gestion d'actifs. Et c'est lui qui guide une bonne partie de la démarche, y compris sur le rapport intégré. Ensuite, il y a eu la finance environnementale. Ce n'est pas complètement un hasard si l'accord de Paris et les discussions qui ont eu lieu en 2015 ont eu lieu à Paris, en Europe, pour lancer cet accord international sur le climat, accompagné pour nous par notre Climate Finance Day international, la création en 2017 de Finance for Tomorrow, qui est la manière dont la place de Paris veut accélérer la démarche en matière de finance environnementale, qui est l'un des sujets majeurs pour nous pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Et puis la troisième étape, c'est la finance sociale qui commence à se développer, à apparaître, l'émission d'obligations social bonds et le développement d'une finance de proximité solidaire, le microcrédit. Nous avons également parlé de ce sujet lors des rencontres de juillet avec Maria Novak et publié un rapport sur le sujet. Voilà, la place financière de Paris, elle est engagée sur ces sujets. Certes, il faut aller plus fort, plus vite, plus loin, mais le mouvement est quand même largement pris, comme sur le rapport intégré, comme on l'a constaté avec ce jury et cette remise de prix, avec une démarche des entreprises qui s'élargit progressivement, même s'il y a beaucoup à faire. Alors, ce sujet, il est également au niveau européen. Ce qui se développe aujourd'hui avec la taxonomie européenne en matière environnementale, la remise du rapport de Patrick de Cambourg sur justement l'élargissement de la démarche du rapport intégré au niveau européen montre que l'Europe avance probablement plus vite, Frédéric Oudéa a raison, que le reste du monde sur ce sujet sur lequel il est vital que les entreprises se mobilisent. Je voudrais terminer juste en rappelant et en citant l'article de hier du secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, dans le Financial Times, qui indique que face, cela dit, au challenge, vous avez décrit l'avenir de notre monde et le fait que notre planète va évoluer, peut-être même un jour disparaître dans les années à venir, face aux défis et aux challenges du monde, il faut évidemment aller beaucoup plus fort. Ce qui me frappe, c'est que M. Guterres en appelle aux entreprises, en appelle au secteur privé pour dire que face à la pénurie de ressources aujourd'hui de la part des pouvoirs politiques, des gouvernements dans le monde, la seule manière d'avancer pour résoudre progressivement ces sujets que nos amis plus jeunes veulent voir réaliser plus vite, c'est de mobiliser les entreprises à travers à la fois les financements, mobiliser l'investissement financier, l'investissement et le comportement des investisseurs, comme Sophie Javary le disait, qui sont forces motrices, mais également mobiliser la stratégie des entreprises pour intégrer, rapport intégré et intégrer plus largement ces objectifs, non plus seulement, comme cela a été dit par Michel, je crois, en termes de classe de risque, mais en termes d'intégration dans la stratégie des entreprises. Et c'est ce qu'on est en train de commencer à constater. Alors même un peu quand même, Frédéric, en Chine aussi, puisque nous travaillons beaucoup avec la Chine sur ces sujets. Et alors la réalité est souvent différente, mais le président Xi Jinping a rappelé à nouveau récemment l'importance de ces enjeux de l'économie durable, y compris pour la Chine pour les années à venir.
Ok, merci beaucoup Arnaud. Justement, je vais enchaîner avec Théophile. On a pas mal parlé ce matin, plutôt au niveau de ta génération, d'une forme de défiance hein, vis-à-vis du mot capitalisme. Toi, tu as assisté aux réunions du jury, tu as même pu assister aux oraux, hein, où tous les dirigeants des groupes nommés sont intervenus, dont Frédéric d'ailleurs. Est-ce que ta perception de notre modèle de capitalisme ou de ce mot capitalisme a évolué grâce à cette expérience ou pas?
Alors oui, tout à fait. Alors je...
T'es obligé de dire oui, hein.
Oui.
Tu non, dis comme tu le sens.
J'ai pris conscience que nous, à l'école polytechnique, on est prêt à faire l'effort d'un capitalisme contraint. D'un capitalisme qui ne cherche pas la croissance à tout prix, mais qui sait s'arrêter quand certaines technologies, certaines découvertes scientifiques mènent vers des innovations qui ne sont pas forcément bonnes pour la planète. Ça peut être assez frustrant de se dire qu'on va travailler, qu'on va faire de la recherche scientifique et que derrière la découverte que vous allez trouver ne va pas être appliquée, ou que la technologie que vous allez développer ne va pas servir. Je pense en particulier à la blockchain sur laquelle j'ai travaillé. Alors c'est un sujet assez complexe, mais certains disent que c'est la révolution de l'Internet de demain parce que ça donne place à un réseau décentralisé. Mais à côté, les systèmes de minage de la blockchain font que c'est très coûteux énergétiquement et donc remettent en cause cette technologie. Je pense que plusieurs jeunes, en tout cas de l'école, sont prêts à faire ce sacrifice de travailler pour des sujets qui ne seront pas forcément appliqués et de sacrifier des technologies qui paraissent agréables et je rebondis sur la 5G et sur ce que disait Benoît, qui paraissent agréables et profitables, mais qui ne sont pas forcément bonnes pour la planète. Je peux comprendre que pour des entreprises, ce soit sacrément difficile à mettre en place, parce que si vous ratez le virage de telle technologie, vous risquez de vous faire remplacer par une autre entreprise. Mais je pense que si une génération monte d'un coup et que une grosse proportion de jeunes est convaincue que ce sacrifice doit être fait, tant que la proportion est suffisamment grande, ça permet d'inverser la balance et de faire en sorte que d'un commun accord, tout le monde se prive de cette technologie-là. C'est sûr que s'il y a une entreprise qui rate ce virage-là, elle risque de se faire remplacer. Nous, à la Junior Entreprise, par exemple, c'est une toute petite structure. Donc, Florian expliquait la Junior Entreprise de Dauphine, c'est très semblable à l'École Polytechnique. On prend de nombreuses missions diverses et variées. Et on a été amené à refuser des appels d'offres parce qu'ils n'étaient pas en cohérence avec nos motivations environnementales. Nous, bien sûr, il n'y a pas d'impact direct sur, puisque c'est une association, on est non rémunéré, donc il n'y a pas d'impact direct sur nous. Mais typiquement, il y a une entreprise qui voulait nous faire faire un pot mini-bar éco-responsable, avec un matériau éco-responsable. Et faute de budget, il nous avait dit faites fi du côté éco-responsable, faites-nous un matériau un peu transparent qui a l'air éco-responsable, et puis on s'arrangera de communiquer dessus.
Ça, donc, c'est pas joli. Hein.
Voilà, donc nous, ça nous. Voilà, c'est. À côté de ça, on a deux entreprises. On a un grand groupe qui nous a demandé de faire une étude de faisabilité sur de la production d'énergie verte à grande échelle, avec un souci d'empreinte écologique au scope 1, 2 et 3. Donc, c'est avec une étude très poussée. Donc, on a remarqué aussi, on remarque de manière très concrète que certaines entreprises prennent le sujet très à cœur et mettent sur pied des projets assez ambitieux de ce point de vue-là. Donc, il y a aussi beaucoup de positifs. En tout cas, je pense que on est prêt à faire certains sacrifices pour justement permettre à cette pensée intégrée de se développer et de faire attention à la planète pour demain.
Bon, mais vous faites plutôt plus volontiers confiance à la génération actuellement en place, confiance à la génération des dirigeants. Hein.
À votre génération?
Oui. Je te remercie. Oui. Oui, j'ai tendu une perche. Hein,
oui.
Qui joue père.
Ah oui, on fait confiance, mais c'est vrai qu'on se laisse parfois. Votre génération est bien en place et parfois on a du mal à. C'est difficile d'interagir et je sais que c'est souvent difficile de parfois il y a un vocabulaire qui est difficile à comprendre et donc l'interaction n'est pas souvent facile, mais. Mais on vous fait bien évidemment confiance et c'est pour ça qu'on est là aussi, c'est pour aussi échanger et vous motiver davantage et vous dire que de toute façon nous on arrive bientôt sur le marché du travail et on pourra vous
aider. Vous allez nous dégager. Merci Théophile, merci pour ta franchise. On va essayer de parler plus de jeunes la prochaine fois dans les débats. On va essayer de faire évoluer notre vocabulaire et être beaucoup plus jeunes. Jean-Marie, alors. Alifassi, vous êtes très engagé en fait sur ce sujet et d'ailleurs vous vous revendiquez quasiment comme des acteurs de la confiance, c'est-à-dire vous dites en apportant davantage de fiabilité dans les indicateurs, puisqu'on en fait on est des contrôleurs, finalement on va permettre de faire avancer, faire bouger les lignes du capitalisme responsable en apportant plus de confiance. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous éclairer un peu votre démarche?
Je vais essayer avec des mots simples.
Avec des mots de Jones.
Des mots de Jones pour pouvoir être compris. Donc ça rejoint la notion de pensée intégrée, de reporting intégré. Donc le fait de pouvoir, que les entreprises maintenant doivent reporter sur tous les capitaux. Donc effectivement, quand on parle de capital, de capitalisme européen, on pense capital financier, capital social. par comparaison avec le capitalisme américain, qui est évidemment plus financier. Mais aujourd'hui, on le voit bien, et les débats de ce matin l'ont bien montré, la notion de capital environnemental, qui est aujourd'hui fondamentale. Et donc, il faut que les entreprises soient capables de communiquer sur tous ces capitaux auprès des parties prenantes. On en a parlé, les investisseurs, les actionnaires, les salariés, les clients, les fournisseurs. Et donc, pour faire ça, il faut que l'entreprise puisse se mettre en ordre de bataille pour produire toutes ces données. Les données financières, il n'y a pas de problème, les règles sont là, les IFRS, les US GAAP, votre place de cotation, c'est complexe, c'est très lourd. Mais dans les autres domaines, c'est un peu plus compliqué, que ce soit le capital social, le capital environnemental, qui plus est d'un pays à l'autre. Donc il y a besoin de mettre en ordre de bataille toutes les services, les organisations au sein de l'entreprise qui travaillent pour collecter et produire cette information pour rendre l'information de qualité, l'information qui soit pertinente. Et donc on pense que vis-à-vis de nos parties prenantes, on doit avoir un rôle justement de créateur de confiance pour apporter la confiance, donc aussi bien en interne avec les directions financières, les directions RSE, les compliance officers, donc l'IFACIS et les auditeurs et le contrôleur interne, également en externe avec les commissaires aux comptes ou le développement durable avec la RSE. On doit arriver à mettre tout ça en musique pour produire de la formation de qualité et qui apporte confiance. Donc il y a effectivement un problème de méthodologie. Donc, je l'ai dit, les normes comptables, c'est facile. Le reste, il va falloir imaginer pour demain des méthodologies sans tomber dans des usines à gaz, des choses pratiques, des bonnes pratiques pour communiquer et enfin remonter l'information et communiquer de manière compréhensible et claire.
Voilà, donc en fait, effectivement, avancer vers des indicateurs plus cadrés, en fait, hein, et plus lisibles.
Sans tomber dans l'excès de normes, ça c'est important. Voilà, il y a des travaux au niveau européen sur le sujet, mais effectivement, nous, on milite pour éviter de tomber dans le normatif pur et dur, la compliance pure et dure, et qui rajouterait une couche de complexité sans apporter de valeur. Donc il faut trouver des choses. Donc ça reste à construire, et là, il y a besoin d'acteurs connus et reconnus pour produire ces informations.
Alors, Myriam, toi, tu as dirigé des entreprises, tu as lancé une start-up dans le domaine de l'environnement, une grosse start-up. Tu viens d'ailleurs de la vente pour une grande part. Toi, ta vision de l'évolution de nos modèles européens dans le domaine cabinet, en tant qu'entrepreneur, en fait, hein, et puis membre du jury des Grands Prix, toi aussi, tu as assisté à tous les oraux, etc. Est-ce que tu peux nous la partager et qu'est-ce que tu as observé comme évolution au cours de ces dernières années ?
Bien, pour moi, le capitalisme responsable, ça fait écho à quelque chose que je répète souvent et qui est souvent mal compris, qui est l'idée que l'argent est une condition nécessaire mais plus suffisante. Et moi, je dis toujours, je suis en phase de rédemption. J'ai passé 20 ans dans le domaine du pétrole et du gaz. Et je le faisais parce qu'il y avait clairement pour moi l'idée, que j'ai toujours d'ailleurs, que l'énergie est au cœur de notre société moderne. C'est le nerf de la guerre de notre monde actuel. On est là, on se voit, on s'écoute, parce qu'il y a de l'énergie et on l'oublie trop souvent. Et finalement, j'ai eu une prise de conscience très tôt dans les années 2000 où on était très très loin de ce qu'on se raconte aujourd'hui. On me disait le 20e siècle est le siècle du pétrole, le 21e siècle sera celui du gaz. Pour moi, ma carrière était toute tracée. Et puis j'ai eu la chance de travailler beaucoup, de réaliser que ce serait plus comme ça. J'ai évidemment entendu une vérité qui dérange. Il y a eu un avant et un après, parce que prise de conscience à l'échelle planétaire, j'ai beaucoup travaillé avec Jean-Marie Chevalier en France, qui est un de nos meilleurs spécialistes de l'énergie. Et puis à un moment, on s'est dit, il y aura avant 2000 et l'après 2010 où il se passera plein de choses. Et ces plein de choses-là, bon, on verra. Et donc du coup, dans ma carrière, a choisi un peu de tourner autour de convictions, parce que je pense qu'il ne peut pas y avoir d'engagement sans conviction. Et ça, c'est quelque chose de très fort que j'ai pu voir dans l'exercice des oraux, parce qu'il y a le papier, comme tu le dis, il y a des rapports intégrés, il y a des méthodologies, il y a plein de consultants qui nous aident à faire ces choses-là. Mais les raisons pour lesquelles on fait ce que l'on fait, on les a en lecture quand les gens parlent réellement d'eux, de leur entreprise, de leurs envies. Et je crois que moi, j'ai beaucoup été récriée. J'étais dirigeante d'une société qui marchait très bien, Primagaz. Du jour au lendemain, donc très peu de femmes, je décide de partir, de créer une société. On était 8, une start-up. Je pense que la moitié de mes amis étaient divisés entre ceux qui pensaient que j'étais définitivement tarée et puis ceux qui, finalement, étaient en soutien. Et 10 ans plus tard, le pivot est énorme, puisque tu viens de le dire, économie d'énergie, c'est une boîte dans laquelle j'ai mis mes convictions, on est 300 aujourd'hui, parité homme-femme, entre 12 et 14 nationalités, 32 ans de moyenne d'âge, 40%, je ne dis jamais ça, mais là je vais le dire, qui viennent du 9-3, parce qu'on n'a pas besoin de raconter tout ça. Je crois que c'est tellement naturel de s'engager dans ces combats. Et je faisais le décompte, on est une toute petite société, mais on a des actions petites, mais tout compte, sur 11 actions des ODD, sur les 17 ODD. Et finalement, je m'aperçois qu'il y avait beaucoup d'attentes par rapport au gouvernement. La COP21, finalement, a donné le message sans les entreprises, que va-t-on faire ? Et aujourd'hui, et je crois que c'est ce qu'on entend, sans les anciens usagers, payeurs de factures, qui sont devenus des citoyens éco-consommateurs, producteurs, qui ne vont pas à la même vitesse dans tous les pays, qui ne sont pas influencés par les mêmes personnes, mais malgré tout, il y a des lignes un peu de fond qui sont suivies par des leaders d'opinion, et c'est ce qui me donne un peu confiance dans le monde, parce que pour le meilleur et pour le pire, espérons pour le meilleur, le monde a toujours changé parce qu'il y avait une poignée de gens qui y croyaient, qui étaient là et qui étaient porteurs d'idées. Et donc finalement, aujourd'hui, dans l'idée de se remettre à la place ce consommateur, qui est finalement un message du digital, que le digital nous donne, bien ou mal utilisé, parce qu'effectivement, il y a toujours cette mesure, cette sagesse. Dans la recherche de sens, il y a certainement une dimension un peu spirituelle, qui est pourquoi nous sommes là, et en tant qu'être humain, comment on fait la différence, et comment on habite ce bout de monde aussi unique, et comment on rend hommage au cadeau de la vie, parce que je crois que c'est des choses qu'on oublie de se dire. Et donc, il y a quelques jours, j'ai annoncé effectivement que la majorité du capital d'économie d'énergie, parce que j'avais envie d'assurer un futur à cette entreprise au-delà de moi, puisque finalement, à qui appartient le capital, passait entre les mains de La Poste, qui est une de nos plus vieilles sociétés en France depuis Louis XI, qui a toujours eu l'idée de pouvoir faire communiquer les gens entre eux. Et je trouvais important d'avoir un porteur pour expliquer que chacun à notre niveau, on a besoin d'économiser de l'énergie. Parce que si on veut continuer à vivre comme on vit aujourd'hui, sans trop de sacrifices, eh bien notre rapport à l'énergie, qui est notre rapport au monde moderne, doit être revu par le haut et par le bas. Et donc finalement, pour moi, ça a été un grand moment de partage, un grand bonheur de pouvoir finalement échanger, de pouvoir voir des gens convaincus, parce que porter des convictions, innover, c'est des mots, ça fait bien dans les journaux, mais il y a vraiment beaucoup de souffrance parfois dans ces choix-là. Ce ne sont pas des choix faciles. Évidemment, ils sont faciles quand on réussit, mais il y a toujours un grand temps de latence entre le moment où on fait ces choix et le moment où ils rapportent de la réussite. Et je crois que c'est un encouragement, et je terminerai par là, à revisiter notre rapport au management, puisque qui parle d'entreprise parle de jeunes, de recrutement, parle de management. Et on m'a toujours dit, après des lectures de livres, le management, c'est planifier, organiser, diriger, contrôler. Diriger, ça n'existe plus. Et nous, en France, on n'a même pas de mot pour remplacer diriger par lidérer. Donc, je vais employer lidérer. Et dans le voyage du leadership, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ce courage des convictions, il y a ce courage de l'engagement, il y a ce courage de passer du temps à d'autres choses qui sont les nôtres dans notre quotidien. Et je trouve admirable que vous soyez là et qu'il y ait certaines de vos équipes ici aujourd'hui, Frédéric. Et puis, ce courage d'apprendre, parce que finalement, à certains moments, on est dans des terrains incognita où on nous interpelle et où tout ce qu'on a appris, on doit le désapprendre, et c'est quand même parfois bien plus difficile de désapprendre, de réapprendre que d'apprendre pour la première fois.
Alors justement, à propos de réapprendre, merci beaucoup Myriam pour ce très beau témoignage de désapprendre et de réapprendre. Moi, je vais suivre la recommandation des théophiles, je vais essayer de prendre un langage de jeune. Je vais demander à Frédéric, qu'est-ce qui vous fait kiffer dans le capitalisme responsable ?
Alors d'abord, peut-être juste deux, trois réactions à ce qui a été dit. Premièrement, je pense qu'il faut qu'on, nous, on s'engage avec des gens comme toi, Théophile, et on va le faire d'ailleurs sur les sujets de climat, parce que sur ces sujets-là, le risque de clivage de nos sociétés est réel. Vous voyez, les agriculteurs aujourd'hui réagissent assez violemment vis-à-vis d'attaques sur le thème « on utilise les engrais, mais il faut qu'on arrive à vivre », etc. Et je pense que nous avons un rôle d'engagement. Deuxièmement, je voudrais juste dire aussi, effectivement, pour revenir sur le thème des convictions, on parle évidemment beaucoup du climat. Moi, j'ai deux autres sujets de conviction forts, mais qui me prennent en tant que chef d'entreprise. D'abord, c'est autour de la transformation digitale. Alors, peut-être qu'on est un secteur un peu particulier, mais c'est vrai que tous nos métiers, tous nos processus et tous nos collaborateurs vont être profondément impactés par ces nouvelles technologies. J'étais hier à Lille, je voyais nos équipes, et quand on dit ça touche vraiment leurs compétences, leurs projections dans l'avenir, etc. Et c'est vrai que quand on pense gouvernance et direction responsable d'une entreprise, moi, l'enjeu d'arriver à conduire ces transformations qui sont nécessaires, parce que si je ne fais rien, là, effectivement, on a un risque aussi de disparaître. Donc, je dois faire des choses, repenser les organisations, les transformer, et y compris penser à la rentabilité de nos activités. Mais j'essaie de le faire de manière responsable, c'est-à-dire en trouvant à chacune et chacun une solution, en formant, en dépensant de l'argent pour la conduite de ce changement. Et je trouve que, d'une certaine manière, on n'en parle pas assez de ce sujet-là. Et quand on parle responsabilité d'un dirigeant d'entreprise, la première des choses aussi, c'est de s'occuper de ses collaborateurs. Et puis, il y a un autre aspect dont on ne parle pas aussi assez en France, je trouve, parce que c'est vu peut-être d'un peu loin, où on le voit d'une certaine manière, c'est autour de l'Afrique. C'est vrai que là, de ce point de vue, moi, j'ai une conviction mais fondamentale que c'est peut-être le sujet numéro un de l'Europe à 20 ou 30 ans. Et quand on pense à l'immigration, sujet d'actualité, c'est vrai que, songez que le Nigeria avait 39 millions d'habitants en 1950, 190 aujourd'hui, et près de 400 sont prévus en 2050, c'est-à-dire à peu près autant qu'en Europe. Vous imaginez bien que si on n'arrive pas, et je prends juste le Nigeria, à arriver à avoir une économie durable dans ces pays, la pression migratoire que l'on va connaître dans 20 ou 30 ans ne sera à rien par rapport à celle que l'on connaît aujourd'hui. Et vous imaginez bien que les enjeux politiques et sociaux que l'on a aujourd'hui ne seront rien par rapport à ceux que l'Europe aura dans 20 ou 30 ans. Et donc, de ce point de vue, on a, nous, une vraie conviction, et j'ai une vraie conviction, en tout cas, d'essayer de contribuer modestement, mais quand même avec la présence de 11 000 personnes, et dans une logique là de moyen terme, parce qu'en Afrique, on ne fait rien en un trimestre, on ne va pas transformer l'Afrique. Mais dans une logique de moyen terme et d'engagement justement responsable, de pouvoir contribuer à un développement durable des économies en étant un des acteurs moteurs, y compris dans une coopération entre le public et le privé qui sera probablement indispensable. Donc effectivement, je pense que derrière ces engagements, c'est... Il faut avoir une forme de conviction que l'on traduit ensuite dans une stratégie à plus court terme avec des moyens, etc. Alors, qu'est-ce qui me fait kiffer ? Moi, je vais vous dire encore une fois, je pense que d'abord, on a tous envie quand même effectivement plutôt de contribuer. Enfin, dans ce monde de tensions extrêmes, moi, j'ai plutôt envie de terminer ma carrière en me disant que, en tant que dirigeant et avec toutes nos équipes, on a réussi à contribuer un peu au-delà d'un chiffre financier. Le chiffre financier, il est important. Je ne peux pas faire abstraction de la notion de profit. Derrière, si de toute façon, il n'y a pas de profit, il n'y a pas non plus d'investissement. Et s'il n'y a pas d'investissement, je ne peux pas financer la formation pour aider tous nos collaborateurs. Vous voyez, donc, je pense qu'il faut qu'on arrive vraiment à se dire, effectivement, le profit fait partie, d'ailleurs, de l'entreprise, mais que bien au-delà, évidemment, on va réussir à faire plus. C'est vrai que moi, je suis tout à fait passionné par ce qu'on fait, je le répète, sur l'Afrique. Je suis passionné par ce qu'on fait sur l'environnement. Et quand on parle d'environnement, vous avez vu qu'on avait pris des nouveaux engagements. Et on parle là d'enjeux forts. Hein, quand on dit qu'on va contribuer à hauteur de 120 milliards d'euros entre 2019 et 2023 au financement du renouvelable, ce n'est pas des sommes négligeables. Hein, c'est du vrai argent, des vrais projets. Et puis ensuite, quand on est un peu pionnier, y compris en Afrique, avec des partenaires d'ailleurs industriels, pour essayer par exemple de développer des modes de financement de projets d'énergie beaucoup plus décentralisés. Bref, je pense que c'est extrêmement motivant d'essayer d'abord de défricher, d'être un peu pionnier et d'innover. L'innovation fait partie, à mon avis, d'une source profonde de motivation. Et au fond, de sentir que toutes nos parties prenantes sont à l'aise avec ça. Et on parle beaucoup de ces sujets. Moi, je passe du temps, de plus en plus de mon temps, avec des jeunes dans l'entreprise pour parler avec eux, comprendre leur propre motivation. Tout ça, c'est extrêmement motivant par rapport, je vais vous dire, au cadre réglementaire classique de lequel j'ai aussi à gérer. Ça me permet de m'aérer, on va dire. Hein.
Prendre de l'oxygène. Très rapidement, Jean-Marie, qu'est-ce qui vous fait kiffer, vous, dans cette démarche de capitalisme responsable de penser intégrée?
C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a tout à faire.
Il y a un énorme chantier
ouais. Et dans lequel nous, en tant que dans notre profession, auditeurs et contrôleurs internes, on sait qu'on a un champ d'action devant nous.
Vous avez
très
tout
large.
À déconstruire, à reconstruire,
à aider l'entreprise à coordonner les activités des différents services et à travers les apports méthodologiques dont je parlais, parce qu'il faudra bien bâtir tous les outils pour pouvoir reporter sur tous ces capitaux humains, sociétaux, technologiques, industriels, etc. Et on pense qu'on a un champ d'action pour les années à venir énorme.
Un peu comme Frédéric Depp, le fait d'ouvrir en fait une nouvelle page, hein, une nouvelle ère de gérer cette transition.
Historiquement, l'audit faisait de l'audit financier, ouais. Aller pointer les chiffres, etc. Mais on a évolué maintenant dans des revues plus stratégiques pour aider l'entreprise à atteindre ses objectifs. Et là on passe vraiment une étape supérieure et qui est vraiment en phase, on le voit bien avec la société. Ça a été, on le voit bien à travers ce que disent les jeunes, ou tout ce qui a pu être dit aujourd'hui. C'est un chantier fabuleux, très motivant pour toutes nos équipes aussi. Oui.
Merci beaucoup. Très rapidement, alors Théophile, toi, qu'est-ce qui te fait kiffer? Tu n'as pas de micro?
Alors, qu'est-ce qui me fait kiffer? Alors déjà, l'environnement me fait kiffer, la nature, notre belle nature. Alors, moi, j'ai la chance de faire du scoutisme depuis plusieurs années. Et donc, je campe souvent dehors, dans la nature. Et c'est toujours merveilleux de voir des régions magnifiques. L'été dernier, on a campé dans les Cévennes, par exemple. Et donc, c'est une nature formidable. Alors, j'encourage, je pense, toutes les personnes qui sont trop souvent dans les villes à sortir un petit peu, à aller au contact de cette nature pour prendre conscience.
Tu dors à la Belle Étoile ?
Oui, bien sûr, à la Belle Étoile. Mais parfois, c'est difficile. On a fait un camp d'hiver dans le Vercors. Il y avait des loups, c'était assez difficile. Mais donc, ça permet de prendre conscience de manière tangible et efficace de la beauté réelle de la nature. Et après, vous avez des vraies images. Quand vous devez prendre des décisions stratégiques en rapport avec cet environnement, vous avez des images plein les yeux et vous vous dites j'ai pas envie que le Vercors enneigé en février, ce soit juste, il n'y ait plus de neige, ce soit des grandes plaines parce qu'il fait trop chaud. Et donc voilà, vous avez envie que vos enfants puissent découvrir la même chose que vous. Et je pense que c'est faut retourner aussi un petit peu vers le concret. Et moi, ce qui me fait kiffer, c'est justement ce retour au concret et à la nature en elle-même.
Très très rapidement. Christophe, tu voulais dire un mot sur la Belle Étoile ?
Pas sur la Belle Étoile, mais peut-être sur ce qui me fait kiffer, moi aussi. Il y a quelque chose. Je vous ai dit tout à l'heure que tout ce que je vous ai raconté là sur les découvertes d'étoiles, de galaxies, etc., c'est apparu à partir d'un problème qui était que la planète Mercure ne tournait pas autour du Soleil comme Newton le prédisait. Il y a des scientifiques qui sont pris la tête pendant plus de 150 ans pour essayer de comprendre pourquoi, et ça a abouti à Einstein qui nous a ouvert un monde complètement différent, beaucoup plus gros que celui que tous nos ancêtres avaient pu imaginer. Aujourd'hui, on fait face à des problèmes, je pense qu'ils sont du même ordre, même s'ils sont plus concrets par rapport à la Terre, et j'adorerais, moi ce qui me fait kiffer dans tous ces problèmes qu'on voit, c'est qu'au final, dans vue du futur, on se souvienne de nos générations, enfin, on inclut toutes ces générations, je suis au milieu, bon, on va dire, qu'on inclut toutes ces générations. Nos générations ont certes été celles qui ont été à l'origine de ces problèmes, mais aussi des solutions. Et qu'on se souvienne de nous comme les premières générations qui ont trouvé des solutions à ces problèmes-là, je trouve que c'est assez excitant.
C'est génial, bravo, bravo, bravo. Très rapidement, quand même, Arnaud et Myriam, avant d'écouter Bruno Le Maire.
Moi, juste un mot. Je pense que j'ai beaucoup apprécié le terme de Théophile qui est interagir. Je trouve que ce qui me fait kiffer, c'est le dialogue entre les générations, justement. Je pense qu'on a beaucoup à faire, beaucoup plus à faire pour développer le dialogue entre les jeunes aujourd'hui et notre génération, Théophile. Je pense que c'est absolument essentiel. Je suis frappé par cette mobilisation et cette motivation des jeunes sur ces sujets essentiels de l'économie durable. il faut qu'on avance ensemble et qu'on voit comment concrètement on va opérer ce mouvement. Voilà, je crois que c'est ça l'objectif essentiel. Et bien sûr, le dialogue également entre les pays au niveau européen, international, l'Afrique, Frédéric a raison, l'Afrique est un sujet central.
Moi, j'aime l'idée de l'espoir, l'idée de l'impossible qui devient possible, de la créativité. Et je crois qu'un pierre angulaire de cette créativité, il y a les relations qui nous unissent, qui durent et qui rendent bien sûr possible des choses bien plus importantes que si on devait les imaginer seules.
C'est magnifique. Je crois qu'on peut applaudir tous les intervenants pour ces belles paroles, ces partages. Cet élan très fort que l'on ressent et puis qui intervient à un moment pas complètement par hasard, comme on le disait en amont, puisque c'est quand même demain, ce sera une célébration importante symboliquement. Donc merci beaucoup à vous tous. Donc Bruno Le Maire aurait voulu être là, donc il est retenu sur une réunion européenne des ministres des Finances. Il nous a préparé une vidéo pour féliciter le lauréat, chacun des lauréats, et pour dire également son engagement, l'engagement du gouvernement dans cette démarche de responsabilité, puisque le gouvernement, comme vous le savez, n'est pas en reste et il souhaite vraiment être un acteur très actif, très leader aux côtés des entreprises, des investisseurs, des étudiants, du corps académique et de tous les acteurs engagés dans la démarche. Merci beaucoup. Donc, je vous invite à voir la vidéo. Il y a une photo, je crois, avant. Et puis voilà.
Bonjour à tous. Je voudrais féliciter d'abord les quatre lauréats du Grand Prix de la gouvernance responsable, Ferrovial, Vodacom, la Société Générale et Valeo. Je crois que ces prix récompensent leur engagement en faveur d'une gouvernance responsable. Et pour tout vous dire, j'aurais aimé être présent à la remise de ces grands prix, mais je suis aujourd'hui à la réunion des ministres des Finances de la zone euro. Mais j'aurais voulu être présent pour vous redire toute l'importance que j'accorde à cette gouvernance responsable. Parce que derrière, ce qui est en jeu, c'est la définition d'un nouveau capitalisme plus juste, plus équitable pour le XXIe siècle. Le capitalisme tel que nous l'avons connu depuis plusieurs décennies, aujourd'hui, il est dans une impasse. Il se traduit par la montée des inégalités, par l'épuisement des ressources naturelles, par le réchauffement de notre planète, toutes choses qui sont inacceptables pour nous tous et inacceptables en particulier pour les nouvelles générations. Donc c'est notre responsabilité à chacun d'entre nous de construire un capitalisme plus responsable qui permette de réduire les inégalités en luttant contre les inégalités de destin et en garantissant un meilleur revenu à ceux qui travaillent. En travaillant sur une production qui soit une production décarbonée. C'est le cœur du pacte productif que le président de la République et le Premier ministre m'ont confié, garantir l'augmentation de la production en France, mais en même temps, zéro émission de carbone. Engager l'Europe dans cette voie en évitant qu'on délocalise nos productions à l'étranger pour les faire revenir ensuite en réimportant du carbone grâce à la mise en place d'une taxation carbone aux frontières. Mais ce combat-là, nous ne pourrons le gagner que si les entreprises sont avec nous. Les États seuls, les gouvernements seuls n'y arriveront pas. Même avec la meilleure volonté du monde, nous avons besoin que les entreprises se battent à nos côtés pour réduire les inégalités. C'est absolument fondamental. Pour mieux récompenser le travail, c'est essentiel. Et pour lutter contre le réchauffement climatique en trouvant des nouvelles solutions technologiques, d'innovation, qui nous permettent de conjuguer production et suppression des émissions de carbone. Donc je crois que vos prix sont utiles, ils sont précieux même, parce qu'ils permettent de récompenser des comportements qui sont vertueux, permettent de récompenser une gouvernance responsable qui fasse plus de place à chacun dans la gouvernance de la société. Donc je ne saurais trop vous inciter à continuer à aller de l'avant, et j'espère bien l'année prochaine pouvoir venir remettre les prix moi-même. Merci à tous, et très belle cérémonie.
Voilà, on peut l'applaudir également, voyez son engagement. Et on espère également qu'il sera parmi nous l'an prochain. En tout cas, il nous témoigne vraiment très clairement de son engagement. Donc il nous reste la photo, si vous le voulez bien. Et puis à vous remercier vraiment très très sincèrement. Rendez-vous l'an prochain sur ces nouveaux sujets et en espérant qu'on fera de plus en plus partie des solutions, comme le disait Christophe, et qu'on aura plein de choses merveilleuses à vous raconter. Moi, ce que je propose, c'est qu'on ne soit pas statique. Alors voilà, on va se prendre comme ça par les épaules. On est dans la relation.
première ligne de rugby. Hein.
Oui, pardon à tout le monde. Les membres du jury et les intervenants, vous êtes... Voilà, c'est ça. Vous êtes invités à monter sur scène pour une dernière photo.
Merci. Super Caroline.